Si les choses ne vont pas aussi mal pour vous et pour moi qu'elles eussent pu aller, remercions-en pour une grande part ceux qui vécurent fidèlement une vie cachée et qui reposent dans des tombes que personne ne visite plus. Ce texte est de George Eliot, romancière du 19e siècle. Les journalistes qui m'accompagnent pour cette table ronde exhument ces tombes, tentent parfois contre vents et marées d'hurler ces histoires au bruit sourd. Bonjour, je suis Clovis Mouma-Maro, étudiant en Master 2 de journalisme. Le thème de cette table ronde sera « Quel apport une ou un journaliste de la minorité peut offrir à une rédaction ?» Pour définir une minorité, c'est des journalistes qui dans une rédaction se sentent minoritaires à cause de leur orientation sexuelle, leur couleur de peau, leur genre, leur religion et leur handicap. Nous en discuterons avec les intervenants suivants. Philippe Lawson, premier directeur de rédaction noire du média digital et indépendant El Post. Il a été directeur de rédaction dans les éditions L'Avenir et L'Avenir Hebdo. Nahed, professeur de français à l'université et journaliste freelance au Liban. Sarah El Massaoudi, journaliste indépendant qui travaille pour les médias belges. Elle est également chargée de projets à Média Diversité et est réalisatrice et productrice des podcasts Nos Héritages. Alain Majesté Baringa, journaliste multimédia pour plusieurs rédactions burundaises. Il enquête aussi pour Jeune Afrique et Voice America. Une première question, y a-t-il des journalistes de la minorité dans les rédactions dans lesquelles vous avez travaillé ?
Je suppose qu'en voyant votre visage, votre regard, la question m'est adressée. Mais c'est vrai que bon, moi, j'ai commencé ma carrière à la Libre Belgique, journaliste de la minorité, parce que souvent, c'est quand on parle de minorité, on a toujours en mémoire minorité ethnique. Et c'est vrai que moi, je n'en ai pas vu de journaliste de la minorité. Je dirais que j'étais le seul à l'époque et jusqu'à présent, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup.
On parle de quelle époque ?
Malheureusement, c'était en 96. Et depuis, je crois que je reste malheureusement le seul journaliste noir dans le paysage médiatique francophone belge, ce que je déplore. Et même quand on parle de diversité, je crois ces derniers temps, ces dernières années, on en parle beaucoup en disant il y a de la minorité dans les médias, dans les rédactions. Mais pour moi, je considère qu'il n'y en a pas du tout, parce que ben, il suffit de voir, de faire un tour dans les rédactions. Je crois que bon, tous les journalistes ici présents peuvent en témoigner. Question de minorité, que ce soit ethnique ou religieuse ou tout ce qu'on veut, il n'y en a pas. Alors que la présence de ces journalistes de minorité peuvent apporter beaucoup de choses. C'est ce que je pense.
Si je me permets d'ajouter un truc sur les minorités, au fait, étant femme dans un média libanais, on me donnait des tâches diverses, mais quant au journalisme, c'est accompagner un journaliste tout d'abord et réviser des trucs que le journaliste avait écrits, même ayant un diplôme, alors que lui, il n'en a pas, parce qu'il y a des rédactions qui acceptent des journalistes sans qu'ils aient fait des études en journalisme. Admettons ça. Mais quand il y a une minorité de femmes dans une rédaction, à ce moment, ça affecte le travail, le rendu et bien sûr la psychologie de la journaliste, si vous voyez.
Oui, en Belgique, les études montrent que dans les rédactions, le journaliste lambda, c'est un homme dont les deux parents sont nés en Belgique, donc un homme blanc. Et qui a un diplôme universitaire, et donc aussi ça témoigne d'un certain milieu social. Et les études montrent que voilà, il commence à y avoir des femmes, petit à petit, des personnes racisées, mais pas encore assez, hein, tant qu'on peut les compter sur le doigt d'une main, qu'on sait citer voilà, toutes ces personnes, mais ça veut dire qu'il n'y en a pas encore assez. Mais donc même pour celles qui sont dans la rédaction, ben en fait, elles vivent aussi certaines discriminations. Pareil, des études ont travaillé sur, par exemple, les femmes dans les rédactions, les femmes journalistes, et elles montrent très clairement qu'elles ont moins accès à des CDI, et donc elles ont des rémunérations moindres, qu'elles ont moins accès à certains postes à responsabilité, chef de service, rédac chef, etc. Voilà, les femmes et les personnes issues de groupes minorisés commencent à entrer dans les rédactions, mais en fait, il ne suffit pas juste d'entrer dans les rédactions ou d'embaucher des personnes issues de groupes minorisés. Il faut aussi, une fois qu'elles sont dedans, ben en fait, les traiter correctement, dignement. Et ça, du coup, ce n'est pas encore le cas.
Et vous avez des exemples dans vos rédactions où vous sentiez que c'était un biais lié donc à votre minorité, on peut dire. Est-ce que vous avez un exemple qui vous est arrivé où vous sentiez qu'on vous proposait un travail où on ne vous le proposait pas parce que vous étiez justement un journaliste de la minorité ?
Moi, il y a un truc que j'ai vécu et que je vis encore, c'est cette injonction à la neutralité. Où en fait, dans les rédactions, les journalistes ont des idées, donc parfois, en fait, ils discutent de sujets, etc. Et si moi, je aussi participais à la discussion, tout d'un coup, en fait, j'avais une sorte de rappel à l'ordre de « Ah, mais attention, Sarah, tu ne travailles pas pour un magazine féministe, ici, il faut être neutre, etc. » Et en fait, cet outil-là de la neutralité, alors qu'elle n'est pas du tout présente dans le code de déontologie en Belgique, hein, on ne parle pas du tout de neutralité, d'objectivité, on parle d'aller vers la vérité, donc de recouper ses sources, d'aller chercher suffisamment de sources différentes, etc., de les vérifier, de ne pas... changer ce que les personnes nous disent. Mais donc, c'est utilisé vraiment comme un rappel à l'ordre, un outil pour bien nous dire, voilà, attention, toi, t'es différente ou toi, t'as pas accès, en fait, à cette objectivité. Et donc ça, c'est quelque chose, oui, qui revient très souvent, et pour moi, mais aussi pour d'autres personnes minorisées. Comme tu le disais, je fais partie de l'association Media and Diversity in Action, et donc c'est une association qui s'engage ici en Belgique pour un monde médiatique plus inclusif. Et on a notamment créé un safe space pour femmes journalistes minorisées. Et donc, c'est ce qui revenait vraiment chez beaucoup d'entre elles, que c'était utilisé comme... t'es journaliste militante, mais du coup, le militant, ça fait que t'es pas vraiment journaliste, quoi, que t'es pas objectif, etc. Et donc, ton travail vaut moins que celui des autres.
Mais il y a un autre élément, moi, que j'ai vécu à mes débuts à la Livre, c'est qu'en fait, à l'époque, quand j'amenais des sujets qui concernaient l'Afrique, on me disait, tiens, ce serait pas bien que tu traites ce sujet parce que tu seras pas objectif. Et là, alors moi, la réponse que je leur donnais souvent, c'est que bon, mais si j'ai bonne mémoire, mes collègues journalistes sont des Belges, mais ils traitent l'actualité belge. Et donc, est-ce qu'on leur fait ce procès d'intention en disant, mais tiens, ils sont belges, donc ils ne seront pas objectifs. Et donc, quand je disais ça, on me riait au nez, on prenait ça avec humour. Mais pour moi, c'était sérieux parce que me dire que je ne pouvais pas traiter les sujets africains parce que je suis africain... Je vois pas où est le problème. Donc, à partir du moment où je suis journaliste, que le métier, je le fais avec objectivité, avec toutes les règles de journalisme, recouper les infos, je vois pas où est le problème. Mais un autre élément que j'aimerais relever aussi, c'est qu'en fait, dans les rédactions, le problème, moi, j'ai eu des stagiaires d'origine diverse qui venaient faire des stages, parfois des jeunes issus de l'immigration maghrébine ou bien de l'Afrique noire, c'est qu'en fait, ils se disaient, mais ils étaient surpris de me voir dans les rédactions. Et ce qui les surprenait, c'est qu'ils se disaient, mais comment tu as fait ? Parce que je dis, mais il n'y a rien de difficile. D'abord, il faut se rendre indispensable quand on est dans une rédaction et proposer des sujets. Et donc, pour eux, ils me disaient, mais nous, on n'ose pas. Parce qu'on considère que ce n'est pas pour nous. On n'y a pas accès. Il n'y a pas de rôle modèle. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de rôle modèle, les jeunes issus de l'immigration se disent, mais tiens, ce métier-là... On n'y a pas accès, c'est pas pour nous. Donc il y a une sorte d'autocensure comme ça chez ces jeunes-là. Même quand on voit dans les amphithéâtres, on voit des jeunes ici de l'immigration dans les amphithéâtres, mais ils ne vont pas forcément, quand ils finissent leurs études, vers le métier de journaliste. Donc il faut à un moment donné donner un coup de pouce à ces jeunes ici d'immigration ou bien aux rédactions. Parce que moi, je me disais, moi, une idée que j'avais lancée, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une aide à la presse aux rédactions. Et donc pourquoi ne pas intégrer dans les règles qui conditionne l'aide à la presse, un critère pour qu'il y ait de la diversité dans ces rédactions-là, de façon à conditionner l'aide à ce critère de minorité. Il faut que la rédaction reflète vraiment toutes les couches sociales de la population belge. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Clairement. Et cet aspect-là, par contre, se trouve dans le code de déontologie, le pluralisme. Parce qu'effectivement, dans les contenus qui sont proposés par les rédactions, ils doivent être pluralistes pour être démocratiques, tout simplement. Et donc, pour pouvoir être réellement pluraliste dans le choix des sujets, dans le choix des angles, des intervenants et intervenantes, il faut aussi, dans la rédaction, une équipe qui est diversifiée.
Et le baromètre du CSA, notamment, sert aussi à montrer cette manque de diversité. Lorsque vous parlez de représentativité, ça explique aussi le manque d'engouement pour le métier. Enfin, moi qui suis racisé, il n'y en a pas énormément, même auprès des écoliers, c'est-à-dire en université. Moi, j'étais surpris qu'on soit deux, trois à être de la minorité. dans cette rédaction. Est-ce que c'est aussi ce manque de représentativité qui fait qu'il y a moins d'engouement, ou peut-être les sujets que les rédactions traitent, ou les deux?
Je crois que ce sont les deux, parce qu'en fait, il y a déjà le manque d'engouement, comme je viens de le dire, parce que les jeunes issus de l'immigration considèrent que ce métier n'est pas pour eux. Ils n'y ont pas accès. Ils ne voient pas des modèles journalistes comme eux, hein, entre guillemets, et pour eux, ils se disent, mais pour nous, on n'a pas notre plat dans ce métier-là, donc ils se dirigent vers autre chose. Et à partir du moment où ils font ça, on ne les voit pas embrasser le cursus scolaire qui mène à ces métiers-là, même si on dit souvent que pour être journaliste, pas besoin de faire des études de journalisme. Hein. Ça, c'est la première chose qu'on dit aussi.
Il y a une bonne chose à souligner, comme j'ai eu la chance d'avoir un stage à Deutsche Welle, qui est la voix allemande. Lorsque tu demandes un stage, quand même, il y a des places qui sont réservées aux minorités. Même dans les places de la région, on dit aujourd'hui, on va accueillir les stagiaires de l'Afrique centrale, les Noirs qui habitent en Allemagne ou en dehors de l'Allemagne. Comme ça, c'est-à-dire que ceux qui ont demandé de stage pour des stages académiques ou des stages professionnels, alors il y a une inclusivité. Je voulais rebondir avec d'autres qui ont lancé en ce qui concerne les femmes. Je viens dans un pays qui est instable, qui s'appelle le Burundi, dans la région des Grands Lacs. Un pays vraiment qui est constitué, où il y a des guerres cycliques tout le temps, où il y a une population majoritaire, où 85% sont des Hutus, 15% sont des Tutsis, donc les Tutsis qui sont considérés comme des minorités. C'était difficile d'embaucher des gens de la même ethnie. Certaines radios ont dit faire un quota pour embaucher des journalistes et pour ne pas créer des frustrations, c'est-à-dire lorsqu'on a embauché 50%, on devait embaucher au moins 50% des Hutus, 50% des Tutsis pour essayer de faire de l'équilibre. Même chose pour les femmes. Je me souviens, ça fait 10 ans que je fais ce métier, je me souviens en 2010, il y avait au moins 24 radios et 15 journaux, si ma mémoire est bonne. Il n'y avait aucune rédactrice en chef parmi les femmes. Et pourtant, il y avait des femmes. À la Radio Nationale, il y avait 24 femmes qui travaillaient à la Radio Nationale, qui présentaient des journaux. Aucune de ces femmes n'avait une poste de prise de décision. Il a fallu que ces femmes se mettent ensemble pour créer ce qu'on appelle une association des femmes journalistes du Burundi. C'est ces femmes alors qui ont trouvé que ces femmes ont des capacités. Des femmes, grâce à cette association, ils ont fait une campagne. Alors ces femmes ont fait ce qu'on appelle journalisme sensible au genre. Ils ont sensibilisé les politiques, ils ont sensibilisé les responsables des médias pour que les femmes prennent des décisions. Aujourd'hui, c'est encore minime, on a au moins 4 à 5 femmes qui sont directeurs des journaux, des radios. Contrairement à 2015, on n'avait aucune femme qui était directeur de radio. De même que des correspondants des médias internationaux, Jeune Afrique, Voix d'Amérique, dans la région, c'était difficile. Parce que c'était un pays qui est toujours en guerre, que ce soit au Burundi, que ce soit en République démocratique Congo, où j'ai eu la chance de travailler. C'était difficile, comme un média international, comme Voix d'Amérique, comme Jeune Afrique, d'embaucher une femme. Parce qu'ils savaient que cette femme va être envoyée au fond, dans le champ de bataille, pour écouter une information. On ne savait pas. On ne savait pas que cette femme sera à Mézi. Alors c'était des préjugés, c'était faux. Aujourd'hui, il y a une femme française qui s'appelle, elle est mariée à une Congolaise qui s'appelle Kibangula. Aujourd'hui, c'est une femme vraiment qui travaille pour France 24, c'est une correspondante de France 24, la République démocratique du Congo. Vraiment, c'est une région très instable, qui vaut près de Goma, qui ferait bien l'information. Donc, il a fallu une bataille, parce que parfois, son métier, c'est un métier qui est trop exigeant. Il faut la méritocratie aussi. Alors, il faut qu'aussi les minorités s'affirment aussi et demander des comptes pour que ça soit, on leur donne leur place. Alors, en gros, c'est ça. Je crois que c'est presque la même chose pour ici en Belgique.
Oui, si vous permettez un peu, je reviens un peu vers l'objectivité exigée dans les rédactions. Au fait, j'ai eu la même expérience étant du Moyen-Orient, du Liban. Et donc, lorsque je proposais aux rédactions des sujets vraiment très interpellants, du Liban, comme les manifestations, la crise économique actuelle, vraiment, alors que plusieurs médias belges étaient en train de couvrir à l'international, bien sûr, on me disait, écoute, tu ne vas pas être objective. Mais effectivement, je répondais toujours qu'une personne brûlée, c'est la personne convenable qui décrit ce qu'on ressent. Une personne qui est là-bas, qui touche à la réalité, qui... Alors, il y a la règle de proximité aussi, exigée en journalisme, qu'il faudrait quand même respecter. De loin, on ne peut pas voir les choses comme quand on est sur le terrain. Être sur le terrain, c'est une exigence en journalisme, d'ailleurs. Voilà. Donc, être objectif, même pour mon sujet de mémoire, notre prof m'avait dit, écoute, tu fais un sujet sur le Liban, il faut respecter l'objectivité. Je suis objective, factuelle, il y a des chiffres, il y a des sources, et là... c'est ça l'objectivité, mais ça n'empêche pas de dire les choses telles quelles. Un autre truc que vous avez soulevé quant au stage. Le stage, j'ai été choisie pour mes stages à cause, parce qu'ils veulent respecter cette diversité ethnique, etc. Mais au fait, j'ai été choisie encore pour avoir une autre perspective, un autre œil, un point de vue différent, étant du Moyen-Orient. Cependant, à un certain moment, la rédaction, je ne vais pas te dire quel média, me disait, qu'est-ce que tu pourrais ramener à la rédaction à propos de ton milieu, mon milieu ici en Belgique. Oui, mais il n'y a pas grand-chose, effectivement. Et vous êtes un média belge, centré sur l'actualité belge. Alors, bon, pour nous, ça va. Pour les Libanais ici, ça va. On est bien, on est intégrés, etc. Je ne vois pas ce que vous exigez. Et là, c'était pour moi une déception parce qu'on ne m'avait pas sélectionné pour avoir eu, être une bonne journaliste ou bien en voix, ou bien j'ai été journaliste chez moi au Liban. Ce n'était pas la raison pour laquelle on m'avait choisi. Et donc, ça a été une déception. Par contre, la politique ici des médias, c'est vrai, comme vous venez de dire, qu'il doit y avoir une diversité. Mais il faut laisser cette diversité agir. Il faut leur donner un peu de liberté de proposer des sujets sans qu'on soit tout le temps contraint. La contrainte, à un certain moment, on veut plus proposer des sujets et on finit par être de côté ou bien par changer de boulot, changer de média, trouver d'autres milieux qui pourraient nous accepter tels que nous soyons.
Mais c'est un métier trop exigeant, il faut s'affirmer aussi.
Voilà, mais ça s'affirmait, par exemple, moi, pendant mon stage, j'ai écrit plus que 15 articles pendant un mois. C'est s'affirmer, à mon avis, c'est s'affirmer. Ça veut pas dire...
Et c'est quelque chose qui n'est pas demandé aussi aux personnes ici des groupes dominants, quoi, de devoir s'affirmer autant et de devoir tenter.
Mais ce que vous dites me permet de rebondir sur un autre sujet, c'est la question des quotas. Personnellement, je ne suis pas pour les quotas, parce que je trouve que... Quand on choisit quelqu'un, c'est sur base de ses compétences et des qualités professionnelles que la personne a. Donc, quand on met les quotas, on a l'impression qu'on prend juste les gens parce que la personne fait partie d'un quota. Et donc, ça décrédibilise un peu la personne qu'on choisit. Moi, je préfère qu'on choisisse les gens sur base de leurs compétences et des qualités professionnelles. Même si, pour amorcer la pompe, il faut les quotas. Mais à un moment donné, il faut laisser les choses se faire toutes seules. Et laisser les gens, quand ils ont les compétences professionnelles, on ne regarde pas leur origine ethnique ou raciale ou rien du tout. Donc ce sont les qualités qui comptent.
Mais on voit ici qu'il y a une difficulté déjà à être un journaliste de la minorité, mais qu'en plus il y a une difficulté à être aussi de proposer des sujets, aussi d'être même dans une rédaction, comme on l'a entendu, un journaliste racisé doit s'imposer alors qu'on ne demande pas ça à des autres journalistes belges. La question qui se pose, c'est de savoir pourquoi il y a cette exigence-là envers des journalistes racisés. Et deuxièmement, lorsqu'on propose un thème qui concerne sa communauté ou sa minorité, il y a aussi l'autre piège de ça, c'est d'être cantonné. Comme elle disait, elle ne s'est pas fait cantonner, mais on l'a cantonné, pardon, à un thème et à ses origines, alors qu'elle peut traiter plein d'autres sujets. Enfin, je la connais, on a fait plusieurs sujets ensemble. Est-ce que... Il n'y a pas un peu un schisme entre les deux demandes, parce que d'un côté, on demande d'avoir des sujets qui nous concernent et parce qu'on va mieux en parler, je pense. Et de l'autre côté, on peut être cantonné.
Mais moi, de mon expérience quand j'étais directeur de rédaction à l'Avenir, c'est qu'en fait, quand on lançait des appels à candidature pour engager des journalistes, moi, j'ai remarqué que dans les candidatures qu'on recevait, il n'y avait pas de journalistes issus de la minorité. Et donc, ça rejoint le fait qu'il y a déjà un manque d'engouement dans les formations et que les jeunes se disent « mais ce n'est pas pour nous », donc ils n'y vont pas. Même quand il y a des appels à candidature, ils n'osent même pas envoyer leur candidature en disant « mais tiens, je sais qu'on ne me choisira pas ». Donc, je crois que même si je suis, a priori, opposés aux quotas. Je crois qu'au début, il faut amorcer la pompe avec les quotas, mais en se disant qu'à un moment donné, il faudra l'abandonner. Et même quand je disais tout à l'heure, proposition que je faisais en disant, mais il faut conditionner les critères, l'octroi des aides à la presse à ce critère de diversité dans ces rédactions. Je crois que ce serait un bon élément parce qu'aujourd'hui, on parle de diversité dans les médias, mais quand vous regardez de près, il n'y a vraiment pas de diversité dans les rédactions. Il n'y en a pas.
Si vous permettez, on n'ose pas, ça c'est vrai, on n'ose pas postuler, oui. Ça c'est effectivement très vrai, surtout quand on regarde les standards des médias, ils ont vraiment des standards très hauts et à un certain moment on se dit, ah oui, moi je I can't fit there,
je peux pas faire ça,
on ne va pas me permettre, voilà, une expérience, je me permets de dire au vif, web, là où j'ai fait mon stage, c'était super, parce que j'étais entourée de journalistes femmes. Il y avait 3 femmes, 4 femmes même dans l'équipe. Ah, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses à propos de imposer ma ligne, imposer mon opinion, mais l'argumenter comme il faut et dire les choses telles qu'elles le sont avec des sources, ça permet. Mais il faut encore que la rédaction nous permet de le faire.
Voilà.
Mais aussi, il y a une autosensibilité vraiment qui est acceptable à avoir. Je me souviens un jour, lorsqu'on faisait un examen pour entrer dans une radio, c'était une radio, parce que la plupart des gens qui travaillent dans les médias chez nous, ce sont des gens qui ont fait les sciences de la communication, audiovisuel, sciences de la communication pour le développement, le droit, faute des codes de jeunesse qui commencent à venir. Je me souviens, on a passé un examen, on était à une cinquantaine, il y avait une personne, une femme qui avait une vingtaine d'années, qui a été classée première. Malheureusement, elle vivait avec un handicap. Alors, elle a tout fait, tous les examens, elle a été première dans tout, que ce soit pratique, que ce soit écrit, tout, mais elle n'a pas été retenue. Alors, on a dit, vraiment, on a besoin des reporters, toi, malheureusement, tu ne peux pas être reporter, quand même.
C'était les raisons pour dire qu'elle ne pouvait pas être reporter.
Parce que c'était une personne qui vivait avec un handicap. On disait quand même, même si tu vas au terrain, tu vas nous coûter trop de moyens pour aller récolter l'information.
Son handicap, c'est le fait d'être femme, c'est ça le handicap?
Non, elle était handicapée. Elle vivait avec un handicap, c'était une femme, oui. Elle avait avec un handicap, elle marchait avec une canne. Elle a été classée première, elle a dit, mais quand même, nous sommes désolés, vraiment, vous êtes une bonne candidate, mais malheureusement, tu es une personne à mobilité réduite. Tu ne peux pas aller au terrain. On a besoin d'un vrai reporter. J'ai dit, moi, je serais une bonne reporter. Pourquoi pas, je ne serais pas comme les autres. Ah non, tu vas nous demander trop de choses. On va chercher des moyens spécifiques pour te dépêcher au terrain. C'était quand même une discrimination qui a poussé d'autres jeunes femmes, d'autres jeunes hommes vivant avec handicap de s'affirmer d'entrer dans le métier parce qu'on a dit que c'est un métier qui est discriminatoire. Alors, parfois, il y a l'autosensi qui vient, mais où il y a des éléments qui sont derrière ça. Alors, il y a des éléments déclenchés qui sont là-bas, qu'il faut alors essayer d'éliminer pour que des gens puissent s'affirmer, que ce soit déjà de la minorité, que ce soit des gens, des personnes vivant avec handicap ou d'autres minorités.
C'est pas juste du coup que les personnes issues des groupes minorisés doivent s'affirmer, c'est aussi que dans les rédactions, en fait, il faut pouvoir faire un travail, parce qu'il y a les quotas, parce qu'effectivement, pour l'instant, les gens ont des préjugés, et donc, même si la personne est compétente, ben, en fait, ils peuvent la discriminer, ne pas l'embaucher, ou ne pas lui permettre, en fait, de s'épanouir dans la rédaction, de monter en grade, etc. Et donc, il y a cette question des quotas, mais il y a aussi une question où il faut faire un travail de sensibilisation pour lutter contre ces préjugés, pour que, à la base, il n'y en ait plus dans le processus de recrutement, mais que même quand elles sont là, ben, en fait, elles puissent traiter pleinement les sujets qu'elles ont envie de traiter. Parce qu'effectivement, il y a à la fois le côté où parfois on va être cantonné à certains sujets parce qu'on vient de quartier ou qu'on vient de... Moi, quand je suis arrivée dans une rédaction, par exemple, je travaillais en région bruxelloise et donc avec les collègues, on se répartissait les communes qu'on allait suivre chacun et chacune. Et il y a des gens de la rédac qui ne me connaissaient même pas parce que je venais d'arriver, mais qui se sont dit que de facto, j'allais suivre Molenbeek, par exemple. Alors que je peux suivre aussi Woluwe-Saint-Lambert, enfin, tu vois. Et donc, c'est ça, clairement. Et donc, on va être cantonné à certains sujets. Et puis à côté, on va nous dire, bah, non, là, tu ne vas pas être objectif. Alors que, comme tu le disais, Philippe, il y a des journalistes issus de groupes dominants qui vont traiter des sujets sujet voilà, sur la Belgique, et où aussi on pourrait dire tu ne vas pas être objectif, mais là la question ne se pose pas, et donc elle ne se pose qu'avec nous. Et donc il faut ce travail de sensibilisation pour pas que nous on ait à faire quelque chose en plus, parce que en fait en tant que journaliste issu de groupes minorisés, on a déjà en fait plus de difficultés, on doit déjà mettre plus de choses en place, mais donc pour que dans les rédactions en fait il n'y ait plus cette discrimination et qu'il n'y ait plus ces biais-là.
En parlant de journalistes qui traitent un sujet de la minorité sur sa minorité, nous allons écouter un extrait de Denzel Washington.
Could a white director not have
produced It's not color, it's culture.
Explain the difference, because I think we're in a space.
Steven Spielberg right now. Did Schindler's List.
Mm-hmm.
Martin Scorsese did Goodfellas, right? Steven Spielberg could direct Goodfellas. Martin Scorsese probably could have done a good job with Schindler's List, but there are cultural differences. You know, I know, you know, we all know what it is when a hot comb hits your hair on a Sunday morning, mm-hmm. what it smells like. Huh? That's a cultural difference, not just a color difference.
All right.
So it's the culture.
You know about a hot comb? So now
she don't know about no hot comb.
Because that's old school.
You don't know nothing about
Dex?
See how everybody laughed? That's a cultural difference. Yeah. That's not a race difference. That's just that motion.
Cet extrait vient du talk show de Karen Hunter qui interroge l'équipe du film Fanzies, un film qui raconte la vie familiale des personnes noires dans les années 50. La journaliste demande à Denzel Washington si un réalisateur blanc aurait pu réaliser ce film. L'acteur répond que ce n'est pas une question de couleur mais de culture. Il argumente que Martin Scorsese aurait pu réaliser La Liste de Schindler, que Steven Spielberg aurait pu réaliser Les Affranchis, mais ce qui fait la grande différence dans la complexité et la compréhension des personnages et du récit dramaturgique, c'est la culture des déréalisateurs. Il finit par donner un exemple que seuls les auditeuristes noirs comprendront, le hot comb. Littéralement, l'odeur d'un peigne chaud plongé dans les braises qu'on passait à travers les cheveux pour les défriser. Cette connivence, cette connaissance ne peut être comprise que par le vécu du réalisateur. Donc la question qui me vient, est-ce que seuls les journalistes de la minorité peuvent traiter des sujets sur les minorités?
Non. pas seulement, pas nécessairement, parce que...
Une petite seconde.
Il y a la question de la...
Ok, voilà.
Pardon, c'est moi.
La question de savoir s'il n'y a que les minorités qui peuvent traiter des sujets liés aux minorités, moi je répondrai non, parce que pour deux raisons, parce que... Il n'y a pas que seulement les minorités qui peuvent ressentir les choses. Un journaliste, quand on prenait l'exemple d'un journaliste qui ne doit pas nécessairement d'une région pour traiter les questions, des sujets liés à cette région, donc un journaliste qui est issu d'une minorité, il n'y a pas que ce journaliste qui peut traiter les sujets liés à la minorité, même si il faut une certaine proximité par rapport au sujet. Hein. Mais comme le disait Denzel Washington, c'est une question de culture, pas de race. Donc quelqu'un issu de la minorité comprend mieux et plus facilement et plus rapidement aussi les questions liées à cette minorité, mais ça ne veut pas dire que c'est uniquement les personnes issues de la minorité qui doivent traiter les sujets liés à la minorité.
Et justement, quand on dit ça, il y a aussi le truc où on considère que, par exemple, toutes les personnes racisées en fait ont le même vécu,
ou...
alors que non, tu peux être une personne racisée et avoir été adoptée, par exemple, par des personnes blanches et du coup ne pas du tout avoir grandi dans la culture. Et donc, c'est aussi, quand on dit ça, ça montre bien en fait le racisme, parce qu'on considère que c'est un groupe homogène, alors que non, en fait, c'est énormément de vécus différents.
La question est forcément un tout petit peu polémique, mais c'est parce qu'il y a eu une enquête en 2009 de l'AJP qui s'appelle « La diversité au sein de la profession des journalistes ». Et les journalistes qui répondaient ont dit à 50% ne pas connaître d'autres cultures, d'autres religions ou d'autres civilisations. Donc à partir de ce constat-là, est-ce qu'on peut dire que enfin, presque la moitié des journalistes ne pourraient pas traiter d'autres cultures, d'autres civilisations et d'autres...
Après, dans le journalisme, enfin, dans l'actualité, tu traites plein de sujets en fait, que tu ne maîtrises pas. Moi, j'ai dû traiter des sujets liés à l'économie où voilà, je ne suis pas fan d'économie. Et c'est ça. Et donc, tu apprends.
Mais quand même, il faut prêcher à un converti. Je crois que lorsque vous êtes spécialiste dans l'économie et qu'on vous donne un sujet avec l'économie, je crois qu'il va bien le traiter pour moi qui est profond dans la matière. Et si on couvre une région comme le Liban. C'est bien qu'on dépêche ma conseil par rapport à moi qui ne connaissent pas le Liban. Et c'est difficile parce qu'ils connaissent les langues de là-bas, ils connaissent les cultures. C'est bien de, lorsqu'ils couvrent ça. Mais d'une autre manière, ça devient une discrimination. Lorsqu'on dit que c'était d'une telle origine qui doit couvrir cette région. Et d'une part, il y a une part de vérité, mais quand même, il faut donner... Je crois que... ce sont les compétences seulement qui priment.
Oui, exactement. Il faudrait qu'il y ait des recherches en rapport avec le sujet, être vraiment à proximité. Je peux parler à ce moment des journalistes qui sont partis en Ukraine, des Belges, des Français. Ils sont partis là-bas, ils étaient là-bas, ils ont vu le vécu, ils ont été avec les gens. Ils peuvent à ce moment bien rapporter le vécu de la guerre en Ukraine. Entre autres, tous les journalistes de guerre qui vont partout dans le monde pour effectivement, la mission du journaliste, c'est vraiment donner une idée claire de ce qui se passe. Et là, il ne s'agit pas de seulement une personne qui pourrait y aller ou qui pourrait rapporter, mais il s'agit, comme vous venez de dire, de compétences, de connaissances, de bien maîtriser le sujet pour ne pas dire de n'importe quoi à un certain moment et de vivre à un certain moment sur le terrain. Il ne s'agit pas d'aller faire une visite et revenir. Donc, il y a des sujets où il faudrait vraiment qu'on approfondissent vraiment les recherches, le vécu. C'est pas, par exemple, je dis n'importe quoi, pour en photojournalisme, une mission pour prendre des photos, c'est pas prendre des photos. Il faut y être d'abord, vivre avec les gens, être dans la région, voir le vécu, le quotidien, la nuit, le soir, à un certain moment donné, puis savoir ce qu'il faudrait rapporter. C'est ça, être journaliste, finalement.
Mais ce sont des faits seulement. Les faits sont têtus toujours. C'est le principe sacro-saint de notre métier.
Okay, en parlant de faits et d'informations complètes et assez expliquées, on va écouter un extrait de la journaliste Leilouna Sadid.
Les médias écrivent que les talibans s'échangent. C'est mieux qu'on nous donne les possibilités. On va rester en contact avec les talibans. Alors que ça, c'est faux. J'ai toujours dit pourquoi tu crois les talibans. Les talibans, c'est un groupe de terroristes. Mm-hmm. Elle n'a jamais respect pour les humains, pour les femmes en Afghanistan.
Elle explique alors que lorsque les talibans sont allés au pouvoir, tous les journaux occidentaux ont décrit les talibans comme un changement important, notamment pour la liberté des femmes, mais aussi pour la démocratie. Est-ce que, comme elle, vous ressentez, quand on parle des sujets qui vous concernent ou lesquels qui vous intéressent le plus en tant que minorité, les sujets ne sont pas suffisamment expliqués ou suffisamment complets ?
Mais c'est une question de compétence. Hein. Quand un journaliste fait son métier, il va au plus profond des choses, se documente, recoupe et ne traite pas la question de façon superficielle. Donc, ici, c'est peut-être que le changement qui a eu lieu et que certains journalistes ou intermédiaires ont traité l'arrivée des talibans comme une délivrance pour les Afghans, on a vu dans la pratique par après que ce n'était pas le cas, que beaucoup de gens se sont trompés, ça peut arriver dans les métiers. Mais en même temps, à l'époque, d'autres journalistes disaient aussi qu'il fallait se méfier de ces talibans-là. Donc, ce n'était pas une vision... commune de toute la profession. Donc il y a d'un côté certains qui estimaient que c'était une bonne chose pour l'Afghanistan et d'autres qui disaient non. Et les faits ont prouvé que certains ont raison et d'autres pas. Donc ici, c'est une question de compétence, même si il y a des journalistes qui ont estimé que l'arrivée des talibans était une bonne chose. On a vu par après, c'était pas le cas.
Oui, au fait, pour ceux qui ont fait des recherches sur les talibans, savent bien que les talibans étaient au pouvoir même quand les Américains y étaient. Ils savent bien l'origine. Ils savent bien leur rite, ce qu'ils pensent, la radicalité, etc., etc. Et donc, ils doivent dire à un certain moment que rien n'a changé. Ils sont là parce que les Américains ont quitté. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas là. Ça ne veut pas dire que ça va être mieux. Donc, c'est comme vous venez de dire, c'est une question d'approfondissement de la recherche, l'historique, chercher les liens, chercher la vérité. Et à ce moment, ne pas dire de n'importe quoi. Vous voyez,
Et puis, quand on traite un sujet, quand on n'est pas spécialisé de la question, il faut aller trouver des experts qui connaissent le sujet. Il faut recourir à ces experts-là. Et c'est aussi le travail du journaliste de le faire.
Mais du coup, il y a cette question des compétences, mais il y a aussi les conditions en fait, dans lesquelles les journalistes et les rédactions produisent l'information. Et donc, quand tu travailles pour un média qui produit de l'information tous les jours, deux fois par jour, etc., en fait, tu n'as pas le temps forcément de faire ces recherches-là. Il n'y a pas tous les jours un spécialiste de ces questions-là. Et donc, tu te retrouves, toi, qui ne connais pas, qui ne maîtrise pas tout cet historique, à devoir traiter ça. Tu n'as pas forcément le temps d'aller chercher ailleurs. Et donc, il y a aussi toute cette question-là de comment sont organisées les rédactions. Et du fait que voilà, les sujets restent assez courts. Enfin, en JT, c'est une trente. Un article dans un journal papier, c'est pas hyper long non plus. Et donc, est-ce qu'on a la place pour bien réexpliquer? En fait, non. Et donc, en fait, on se retrouve à atomiser l'information, à pas pouvoir bien la recontextualiser, bien faire des liens. Et en plus, comme c'est des sujets ici comme ça, avec le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie, etc., en fait, comme c'est considéré comme étant loin de nous, alors géographiquement, mais je pense que surtout culturellement, c'est ça qui fait que bah, du coup, on en parle moins aussi. Et donc, il y a, on maîtrise moi, en fait, ces sujets-là aussi.
Oui, et c'est pourquoi, à un certain moment, la rédaction, c'est à elle de dire que ce sujet devrait être mieux traité, ce sujet devrait être approfondi. C'est à ce sujet qu'on pourrait consacrer plus qu'une minute et demie, peut-être, mais quand même ne pas harceler le journaliste afin de donner un article où il ne dit pas tout, hein.
Mais le journaliste aussi peut le faire en disant, mais tiens, le temps que tu me donnes pour faire ce sujet n'est pas suffisant, je ne pourrais pas t'apporter les éléments ou bien l'article ou bien le sujet qu'il faut, je ne peux pas le traiter pendant ce laps de temps qu'on me donne, donc je ne le fais pas. Donc il faut que le journaliste aussi ait le droit de le dire.
Je crois que la réunion de la rédaction est un peu souveraine, ce n'est pas un dictat. On peut se désister à la dernière minute, c'est pourquoi il y a des réunions de rédaction qui sont souveraines. Donc, lorsqu'on ne maîtrise pas le sujet, on peut dire je ne maîtrise pas le sujet, donc le donner à un autre. Ou orienter un sujet et aider un journaliste qui va le faire et l'orienter, lui donner toutes les étapes, comment il va passer pour produire une bonne information. C'est ça, c'est le rôle primordial de la réunion de la rédaction.
Oui, mais il y a encore cette histoire de minorité encore au cœur de la rédaction pendant la réunion de rédaction. Alors, il y a tout le monde qui est d'accord avec le chef, alors qu'il y a une seule personne qui dit non, ça c'est un sujet qui exige du temps et je ne pourrais pas faire. Alors, si le rédacteur-chef va vous dire, vous allez sur ce sujet et vous sur celui-là, alors vous risquez soit de perdre le métier, soit d'être mal vu par le team et personne ne vous seconde. Ça, c'est encore une minorité de personnes qui osent le faire et le dire. Et à ce moment, si on n'a pas un contrat vraiment un bon
parce
contrat...
Parce qu'on est pigiste, c'est oui, quelque chose.
Oui, c'est à ce moment. Bon, si vous permettez un peu, je partage une expérience d'une rédaction, la rédaction de notre chaîne d'office sur Twitch. Nous sommes un groupe d'étudiants en Master 2 et là, dans notre rédaction, on est une dizaine de personnes que je salue. J'ai fait une expérience super chouette, on est tous et toutes à égalité, on propose des sujets, on vote sur le sujet librement, c'est parce qu'on est affilié à aucun média, c'est à ce moment où on dit ça, on reporte pour plus tard, parce que ça c'est un sujet qui existe, c'est une chronique, et il faut un invité, un expert, ça peut aller parce que ça peut être dit en 10 minutes et être discuté, et là la liberté de dire ce que l'on pense au sein de rédaction compte aussi beaucoup hein, pour un journaliste.
Mais cela entre dans la crise parce qu'au niveau des rédactions, il y a aussi l'austérité. Les postes d'OSR, secrétaire de rédaction, est en train de disparaître. Sinon, c'est le secrétaire de rédaction qui devrait centraliser tout ça. Le rédacteur en chef a un rôle protocolaire pour guider. Mais sinon, le rôle, c'est de venir au secrétaire de rédaction qui prend une décision après avoir consulté tout le monde parce qu'il y avait la souveraineté de la rédaction. Mais avec la crise, on est obligé de faire l'austérité. Parfois, il n'y a pas d'OSR qui devrait être là. Et c'est ça, en fait. Le métier a été frappé par la crise comme d'autres secteurs de la vie nationale. C'est comme ça. C'est pas ici en Europe, c'est dans tout le monde entier, malheureusement.
Oui, mais moi, je m'inscris en faux contre cette question d'austérité qui précarise les rédactions. Parce que quand on ne fait pas bien son travail et qu'on n'offre pas aux lecteurs des infos recoupées ou bien traitées en profondeur, avec le temps, c'est un mauvais choix, parce qu'à la longue, les gens vont se détourner de ce média-là. Donc il faut prendre le risque de travailler les sujets en profondeur, de les faire de façon professionnelle, même s'il y a l'austérité. Il faut essayer de bien faire son travail. Donc aujourd'hui, les rédactions qui font un mauvais calcul en disant « Tiens, c'est la crise, on réduit les moyens des rédactions », c'est un mauvais calcul, parce qu'à la longue, ça ne sera pas payant. Donc ils risquent de se retrouver face à des lecteurs ou bien des auditeurs spectateurs ou bien téléspectateurs qui se détournent de leurs médias. Donc il faut toujours se dire, mais tiens, même si c'est a priori c'est un choix difficile parce qu'il y a l'austérité, il faut investir dans l'info de qualité, et ça je suis persuadé que les gens le remarqueront plus tard.
Bah surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux où on peut partager, où on peut critiquer, où c'est très visible. Je pense que oui, c'est extrêmement important.
Mais est-ce que vous, en tant que minorité ou personne racisée, est-ce que ça vous est déjà arrivé de lire un article où vous vous êtes demandé, parce qu'en fait on dit qu'il n'y en a pas tellement, mais que ces sujets-là sont traités quand même par nos journaux occidentaux, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ou dit que cet article n'était pas assez complet ou était assez...
partiel.
Oui, voilà.
Oui, moi je parle de mon cas. Il y a un journaliste qui s'intéresse à la région de Galak, qui coule à libre quand même. Parfois, lorsqu'il parle du Burundi, il donne une information approximative qui n'est pas fouillée. Moi qui connais bien le Burundi, qui connais les méandres, les tenants et les aboutissants, je crois que c'est une info qui n'est pas fouillée. Et quand même, il a ramassé à gauche, à droite des informations. Je me souviens aussi d'un journaliste qui s'appelait Jean-Hélène, paix à son âme, qui a été tué en Côte d'Ivoire. En cet moment, il était correspondant de la RFI à Nairobi. Donc, à Nairobi, c'est au Kenya. Il couvrait tout l'Est et le Grand Lac. Donc, parfois, il était dans un bisco, il appelait à Bujumbura, il disait, aujourd'hui, il y a l'attaque des rebelles, combien de personnes ont été tuées. Parfois, il appelle une autre personne qui se trouve dans un bisco, il dit, c'est 44. Alors, il prépare un papier sans toutefois écouter ses sources. Alors, c'est tout à fait normal lorsqu'on ne maîtrise pas le sujet. Et je crois que les exemples sont multiples, même dans les médias occidentaux, malheureusement.
Et je pense que ça dépend aussi de à qui est-ce que les médias s'adressent ou pensent s'adresser. C'est-à-dire que quand ils s'adressent parfois à un public, ils estiment juste blanc ou de classe moyenne. Moi, c'est ce qu'on m'a déjà dit quand je proposais des sujets, que ce n'était pas assez classe moyenne, soi-disant. En fait, c'est un public qui, sur certaines de ces thématiques-là, a peu de connaissances. Et donc, en fait, ils peuvent se contenter de ramener des sujets avec peu approfondis parce qu'ils estiment que voilà, le public n'a pas besoin de plus. Et donc, forcément, nous, en tant que personnes avec plus de connaissances sur ces sujets-là, oui, on va trouver que ça manque d'informations et de pertinence.
Est-ce qu'on ne rend pas le public un peu plus idiot par rapport à...
Mais on a un travail bâclé. Les lecteurs ne sont pas des idiots.
Et on donne un travail bâclé et qu'on induit en erreur la population comme ça. Mais parce que les journaux aussi ont un travail d'éducation de la population. Et donc, c'est pour ça que moi, je trouve qu'à un moment donné, la plupart des sujets étrangers sont traités sur base de dépêches. Et ces dépêches-là, parfois, ces dépêches ne sont pas objectives ou bien ne vont pas en profondeur des choses. Donc, on utilise ces dépêches-là, on les travaille et puis on fait son article. Mais à un moment donné, il faut quand même se dire que des correspondants sur place... qui maîtrisent les sujets et qui ont une certaine proximité avec le sujet qu'ils traitent, je crois qu'il faudra travailler avec ces correspondants-là pour avoir une info objective, professionnelle et bien documentée.
Oui, oui, je comprends très très bien ce que vous dites. J'ai un exemple concret, effectivement. J'ai une collègue, Margot. Elle a été sur le terrain là quand il y a eu les manifestations pour les migrants à Bruxelles. Et donc, selon Belga, il y avait un chiffre, alors que Margot a pris son temps pour compter les manifestants. Vous voyez ? Bon, et donc, quand elle est rentrée, voilà, il y a autant, mais plus un, moins un, voilà. Mais alors qu'on n'a pas pris son chiffre, c'est à ce moment que ça m'interpellait. En outre, un autre exemple, j'ai été au Liban, il y avait une manifestation, j'ai parlé aux gens, j'ai interviewé les pour, les contre, etc. J'ai croisé les données, pourquoi et comment et où, etc. Et à un certain moment, une certaine rédaction m'a dit, nous, on préfère prendre l'article de notre collègue correspondante. Je lui ai dit, mais elle est où, votre correspondante? Elle est en Belgique. Alors que moi, j'ai eu l'occasion d'être sur le terrain et je peux vous rapporter les choses telles qu'elles étaient faites, dites, etc., avec des témoignages, avec des noms, etc., etc. Donc, faire confiance au terrain, c'est très important, mais encore, en parallèle, qu'il y ait une rédaction qui arrive à distinguer, c'est pas une fausse information, mais elle est incomplète, si vous voulez, et éduquer, comme vous
voulez dire. C'est le syndrome de ce qu'on appelle les journalistes seniors. Ils se disent qu'ils sont spécialistes spécialiste de toutes les régions. J'ai travaillé en Irak en 2004. Aujourd'hui, on est en 2023, c'est plus de 19 ans. Alors, je deviens spécialiste de la région comme ça. Non. C'est pas comme ça.
Non. Mais quand même. C'est pas comme ça. Les journalistes seniors, c'est vrai qu'à un moment donné, on se prend pour l'expert de toutes les régions, de tous les sujets qu'on traite. Mais il faut avoir l'humilité de dire, mais tiens, ce sujet-là, je ne le connais pas assez. Soit je fais appel à des experts ou des gens qui connaissent mieux le sujet que nous, ou même dans les rédactions, il faut oser faire confiance aux correspondants sur place et ne pas se dire que le journal qui reste derrière son bureau aussi, qui potasse les dépêches, traite mieux l'info que celui qui est sur place. Donc il faut faire confiance aux correspondants sur place et leur donner la possibilité de s'exprimer et d'écrire sur les sujets.
Il y a cette question aussi, du coup, des journalistes seniors qui pensent qu'ils maîtrisent tel sujet parce qu'une fois, ils l'ont traité. Mais il y a aussi, ils pensent aussi connaître exactement le public et ce que leur public veut avoir. Et donc, en fait, ils ne traitent que tel type de sujet. Moi, ça m'est arrivé aussi où j'avais fait une fois un sujet sur la reconnaissance des mosquées par la région bruxelloise, donc ici à Bruxelles, et où j'ai eu ensuite un retour d'un collègue qui disait « Ah ouais, mais ça fait encore un sujet sur les mosquées alors que notre public, il s'en fiche. » Il est plutôt catholique ou je sais pas quoi. Et donc, en fait, c'est de nouveau cette question de pluralisme et de cet objectif qui est dans le code de déontologie, je le rappelle, des rédactions, de traiter en fait un maximum de sujets avec des angles différents pour pouvoir rendre compte des réalités, en plus de Bruxelles, qui est quand même l'une des villes les plus multiculturelles au monde.
Oui, puis surtout, ça permet de se comprendre entre minorités et entre personnes non minoritaires. En parlant de solutions, on va écouter Maxime Maillet, journaliste de la RTBF et spécialiste des thèmes sur les communautés LGBTQIA+.
Alors, moi, je pense que c'est toujours bien de laisser la parole aux personnes concernées, mais quand ces personnes ne sont pas dans les rédactions, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Moi, je pense qu'il faut être des relais, c'est-à-dire, tant que ces personnes ne sont pas encore dans les rédactions, je parle de personnes racisées, de personnes trans, hein, voilà, de toutes les personnes, il faut parler de ces personnes-là. Mais peut-être que le jour où ces personnes-là seront dans les rédactions, ce sera aussi à mon rôle à moi de faire un pas de côté sur ces thématiques-là et laisser la place à ces personnes concernées, quoi. Et là, j'en suis pas encore là, parce que comme je disais, il n'y a pas, enfin, à ma connaissance, ou en tout cas, il n'y a pas, de, par exemple, de personnes trans qui travaillent ici à l'RTBF comme journalistes. Donc, du coup, on fait quoi ? On ne parle pas de cette thématique-là.
Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette piste de réflexion ?
Ben, c'est comme il le dit, hein, et ça revient à ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est pas nécessairement uniquement les gens qui sont issus d'une minorité qui doivent traiter ces sujets-là. Et donc quand on n'est pas issu d'un sujet, on ne connaît pas bien un sujet qu'on veut traiter, il faut faire appel à des experts ou bien des gens, des relais, des personnes relais. Aujourd'hui, il y a des associations LGBTQIA et il y a tout ce qu'on veut. Donc un journaliste qui n'est pas issu de cette communauté mais qui doit traiter ces sujets-là peut faire appel à des experts ou bien des gens qui sont issus de cette communauté-là. Donc c'est le travail du journaliste aussi de faire ce métier comme ça. Donc pas nécessairement avoir des gens issus de cette communauté-là dans les rédactions. S'il y en a, tant mieux, et leur regard est intéressant et il peut enrichir le sujet qu'on traite. Mais s'il n'y en a pas, il y a des associations qui existent et des personnes relais vers qui on peut se tourner.
Bah, je crois que le journalisme diffère de l'activisme. Un journaliste n'est pas un activiste. S'il y a quelqu'un de la communauté LGBTQI, si on donne l'information, comment il va le traiter ? Je crois que l'info ne sera pas équilibrée parce qu'il va y montrer ses émotions, parce qu'il fait partie. Il fait partie de ce... Je crois que ce n'est pas l'activisme, le journalisme. Donc, non. Un journaliste n'est pas un activiste quand même. On peut traiter la politique sans être...
Est-ce qu'un journaliste activiste peut traiter de ce sujet ?
Mais je pense qu'il ne s'agit pas tant d'activisme que d'engagement, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il y a trop cette idée que le journalisme, c'est forcément objectif, neutre, alors que personne n'est objectif, n'est neutre. On a tous des lunettes à travers lesquelles on observe le monde. Et même, on peut prendre des dépêches d'agence qui sont censées être les plus objectives possibles. Si on nous demande à nous tous ici de faire une dépêche sur ce qui s'est passé aujourd'hui, on aura 10 textes différents. Parce qu'on va mettre des mots différents, qu'on va mettre d'abord une information différente parce qu'on a estimé nous personnellement que c'était ça qui était le plus important, par exemple. Et donc il y a pas.
Mais quand même, si on a tué ma mère aujourd'hui, c'est moi qui va couvrir cette information. Comment je vais le couvrir ?
Mais encore. Mais là, il s'agit pas de. Là, c'est un peu un exemple.
Il y a encore un truc très important, par exemple, pour un sujet pareil, c'est que moi, si je suis de cette communauté, j'ai des ressources, j'ai des contacts, je connais des gens qui pourraient donner des informations. Et c'est à ce moment où c'est enrichissant d'être membre de cette communauté. Donc, ça pourrait être encore utile.
Oui, et le journalisme, c'est une série d'engagements. Je suis désolée, mais décider que ça, c'est un sujet, et que ça, c'est pas un sujet, que ça, ça mérite qu'on en parle, et que ça, c'est un choix qu'on pose, et c'est pas objectif. Décider que tel sujet, on va lui accorder telle place, que ce sera la une du journal, ou que ce sera une brève en fin de page, c'est un choix, c'est pas objectif. Décider qu'on va le traiter sous tel angle, avec tels intervenants ou intervenantes, ce sont des choix. Et donc, il y a de l'engagement là-dedans, et je pense que c'est important de le rappeler, ça aussi.
Ce que vous voulez souligner aussi, Maxime Maillet, c'est qu'en tant que personne discriminée, elle peut comprendre les autres personnes discriminées. Qu'il y a aussi les mêmes codes qui, soit dans la discrimination et soit dans la personne discriminée, qui permettent soit de lutter contre ça, soit de subir en fait ce genre de choses. Et donc, c'est ce que lui voulait exprimer, c'est qu'en tant que personne LGBTQIA+, quand il traite un sujet sur le racisme, il va le traiter aussi parce qu'il connaît les codes de discrimination, mais aussi comment réagir contre ça pour pouvoir...
Il y a cette connaissance, mais du coup, c'est pas... chez tout le monde non plus, parce que même si on est issu de groupes minorisés, on a aussi intégré en fait des biais de discrimination racistes, sexistes, etc. Et donc, par exemple, si on prend les personnes racisées, du coup, je suis une personne racisée, maintenant, j'ai pas la peau noire, et donc, c'est pas la même vécu non plus, et il existe en fait du racisme intra-communautaire ou entre des personnes d'origine maghrébine ou du Moyen-Orient vis-à-vis des personnes noires, et donc, c'est toujours aussi la question de la démarche de chacun et de chacune. Et donc, oui, il y a cette connaissance, mais c'est aussi toujours en fait un processus de déconstruction et de travailler, de s'intéresser et d'apprendre les termes utiles, etc.
Donc, vous pensez que dans les rédactions, il faudrait une formation? Enfin, ça, c'est quelque chose qui m'a été dit par beaucoup de journalistes avec lesquels j'ai enquêté. C'est que nous, en tant que jeunes journalistes, Master 2, ou même les gens qui viennent à peine d'être journalistes, on a ces préventions en fait sur le vocabulaire, sur comment on traite un sujet LGBT ou sur le racisme, mais que en haut, dans les rédactions, dans les chefs des rédactions ou les patrons, il y a moins cette...
Déjà, moi, je ne suis pas sortie il y a très longtemps de l'UNIF et je ne l'ai pas eu, cette formation. Donc, c'est récent et donc c'est bien que ça arrive. Je suis contente de l'apprendre. Mais du coup, oui, c'est quelque chose qu'il faut instaurer dès l'école, en fait. Parce qu'ici, on parle de discrimination qu'il peut y avoir dans les rédactions. Mais je veux dire, ça se passe aussi dès l'école. Avec l'association Media and Diversity in Action, on a reçu plein de témoignages d'étudiants et d'étudiantes racisées, des femmes, etc., dans les écoles de journalisme en Belgique, qui ont subi aussi des discriminations, certains qui abandonnent parce que c'est violent, en fait. Et donc, oui, il faut dans les écoles, et aussi, bien sûr, après, parce qu'il y a... on parlait des journalistes seniors, eux n'ont jamais, je pense, eu et ne côtoient pas forcément non plus, en fait, d'autres milieux, d'autres cultures, donc c'est hyper important.
Mais c'est vrai que ces formations qu'on donne maintenant dans les facultés, dans les amphithéâtres, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas hésiter non plus à aller former les gens qui sont dans les rédactions pour qu'ils puissent mieux traiter ces sujets-là, parce que on peut traiter de tous les sujets. C'est une question de choix rédactionnel. Et puis, d'une certaine connaissance de son lectorat ou bien de ses téléspectateurs ou de son auditorat. Mais tous les sujets, on peut les traiter. Et même si c'est une bonne chose qu'il y ait ces formations-là dans les écoles, mais il faut aussi donner des formations dans les rédactions où il y a des journalistes seniors qui n'ont pas eu cette formation-là avant et qui traitent maintenant les sujets parce que la société évolue et les sujets arrivent... Tous les sujets arrivent et on doit les traiter. Donc, c'est mieux que les rédactions en chef ou bien les patrons de presse permettent à leur rédaction d'avoir ces formations-là pour une meilleure information du public et une meilleure sensibilisation.
Moi, je crois que c'est une forme de recyclage pour ceux qui se trouvent déjà dans le métier. Mais aussi, pour les deux cas, il faut aussi une prise de conscience aussi. Il faut savoir que le monde évolue. Je dois évoluer comme le monde évolue. Je dois savoir, je dois avoir une connaissance générale. Je dois m'informer. Et avant de former, éduquer, qui est notre principe sacro-saint. Donc, il y a une prise de conscience, il y a un recyclage parce que, en journalisme, on apprend toujours. On apprend toujours parce qu'il y a de nouvelles méthodes qui entrent dans le métier. Il faut être apte, il faut être à jour. Je crois que c'est tout à fait normal de faire un recyclage. Et je crois que d'ici 10 ans, 15 ans, il y aura d'autres formes de journalisme. Il y aura d'autres formes qui vont venir. Il y aura d'autres formats aussi. Mais quand même, il faut qu'un journaliste soit au jour. Ce n'est pas le journalisme des années 90 avec le format papier, avec la radio, avec la télé. Aujourd'hui, il y a plusieurs formats multimédia. Demain, il y en aura d'autres quand même. Il faut toujours faire le recyclage au niveau des médias, au niveau des rédactions aussi, et une prise de conscience qui est permanente. au niveau des journalistes, au niveau des rédactions et au niveau des professionnels et des organisations des professionnels des médias. Parce que s'il y a des organisations des professionnels des médias, je crois que c'est eux qui doivent prendre le relais pour faire ce recyclage et sensibiliser à cette prise de conscience.
C'est une question de formation continue et il y a une évolution capitale qui arrive, c'est l'arrivée de ChatGPT par exemple, qui va vraiment modifier le métier. Donc se former de façon continue est très important.
Je pense que c'est ça ce que l'association des journalistes ils sont en train de le faire. Toujours, ils nous proposent des formations, ils nous proposent des réunions, des séminaires. Voilà, et je pense que ça pourrait être en faveur de journalistes, des journalistes et aussi du public.
Voilà, nous remercions chaleureusement nos invités pour avoir pris le temps de discuter avec nous. Nous vous laissons avec cette musique d'espoir et de liberté, Baraye de شروی اجیپور توی کوچه رخصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیعصر و درختهای فرسوده برای پیروز و احتمال انقراضش برای سگهای بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوقفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای آینده برای این بهشت اجباری برای نخبه های زندانی برای کودکان افغانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعارهای تو خالی برای آوار خونه های پوشالی احساس آرامش برای خوشی پس از شبای طولانی برای روزهای اعصاب و بیخوابی برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن زندگی آزادی برای آزادی
Radio Campus, Bruxelles, 92.1.